Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Je voudrais commencer cette émission par un hommage que le groupe d'Amnesty de Digne tient à rendre à son jeune militant disparu, Jean-Pascal. Donc je dédie cette émission à notre ami Jean-Pascal, trop tôt disparu, qui fut un membre actif et apprécié de notre groupe d'Amnesty. Quand nous avions proposé à Jean-Pascal de nous rejoindre, il n'avait pas hésité une seconde, car il portait en lui toutes les valeurs qui fondent notre mouvement de défense des droits de la personne humaine. Doté d'une solide connaissance historique, lui permettant de bien comprendre l'actualité, il était comme nous tous révolté par l'injustice et rêvait d'un monde où chaque être humain puisse bénéficier de l'ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il agissait avec nous au nom de la dignité et dans un esprit de fraternité, comme le demande l'article 1 de la DUDH. Désormais, sa signature va manquer dans toutes nos pétitions et dans tous nos courriers, mais plus encore, va nous manquer sa présence, sa gentillesse, son humanité et son attention aux autres. Il nous laisse très tristes, mais déterminés plus que jamais à continuer le combat pour la dignité qu'il avait si bien partagée avec nous. Voilà. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un ami, Jean-Marc Pélinck, qui est membre d'Amnesty International du groupe de Pertuis et qui est en même temps le président d'IRA France Mauritanie, une association de lutte contre l'esclavage. Et donc, le thème de notre émission portera sur l'esclavage, justement, puisque demain, à la médiathèque de Digne, nous avons une manifestation avec conférences et expositions. Voilà, alors bonjour Jean-Marc.
Bonjour Régis, merci de ton et de votre invitation, merci beaucoup.
Voilà, alors Jean-Marc, peut-être tu peux te présenter rapidement et puis donner un peu le pourquoi de ton engagement et notamment dans cette association dont nous avons déjà parlé souvent à cette antenne, IRA France Mauritanie.
Bon, voilà, je m'appelle Jean-Marc Pélinck et je suis président depuis 2014 d'une ONG, organisation non gouvernementale qui s'appelle donc IRA France Mauritanie. IRA pour Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste France Mauritanie. On va parler pendant cette petite heure et évoquer la Mauritanie. On se passerait vraiment de parler de ce qui s'y passe en Mauritanie, parce qu'il s'y passe depuis de très 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 nombreuses années, j'allais dire depuis des siècles, des choses très graves au regard du siècle dans lequel on vient d'entrer. On est au 21e siècle et on est entre guillemets obligé encore de parler d'esclavage. Et ce qui se passe en Mauritanie est non seulement abject, mais hors du temps. Alors bon, dire qu'on ne parle pas assez de la Mauritanie, bien évidemment, par rapport à ce qui s'y passe, c'est peu de le dire. La Mauritanie, voilà, pays qui n'est pas encore dans l'Afrique géographiquement, qui est en bas du Maghreb, bordé au sud-ouest par le Sénégal, le fleuve Sénégal, le Mali à l'est, et puis cette grande ligne droite qui monte jusque au bout de l'Algérie, avec une petite frontière commune avec l'Algérie et le Sahara occidental. Capitale Nouakchott, un peu plus d'un million d'habitants pour un pays qui est au maximum 4 millions d'habitants. C'est très compliqué en Mauritanie d'avoir des chiffres, on va le voir. La Mauritanie, c'est une ancienne colonie française qui a donc été indépendante à partir de 1961 et dans les mauvaises nouvelles datant de cette indépendance, à l'indépendance, et il faut le dire, parce que je pense qu'on va être, hein, on va être très clair, hein, ouais. et sans embâche pendant une heure, la France y a imposé immédiatement un groupe. Alors, j'aime pas le mot ethnie, parce que la Mauritanie est composée de groupes. Donc, la France a imposé on va appeler un leader, un président de la République, à l'époque, arabo-berbère. Et qui plus est, elle a imposé d'entrer la langue arabe. Ce souci-là perdure par rapport à la reconnaissance géographique et ethnique de la Mauritanie, qui, comme je le disais dans la présentation géographique, n'est pas encore dans l'Afrique et pas encore dans le Maghreb non plus. Alors la Mauritanie, c'est deux fois gros comme la France, 4 millions d'habitants. C'est un petit peu moins de 4 habitants au kilomètre carré. Donc la Mauritanie, c'est Nouakchott. Après, on va parler de villes, Nouadhibou, Rosso, Nema, Chinguetti, mais qui les connaît, ces villes. Donc si on rentre dans la présentation de la Mauritanie, je parlais de groupes et d'ethnies. Donc les arabo-berbères, qui représentent à peu près 20 à 25, est un lapsus très révélateur, je m'en excuse pas, qui pèsent et qui représentent 20 et 25% de la population. Donc c'est des hommes et des femmes de couleur blanche, type européen. Ensuite, un groupe qu'on appelle négro-mauritanien, qui représente entre 15 et 20% de la population, qui représente les ethnies Poular, Wolof, Soninké, Bambara. Alors bon, si on est dans le jeu des couleurs, on va dire qu'ils sont un peu plus foncés que les arabo-berbères, et moins noirs que l'autre groupe, qui représente donc les Haratines. Les Haratines, c'est 60% de la population, population noire, et à 100% de 100% anciens esclaves ou descendants d'esclaves. Et c'est principalement d'eux dont on va parler aujourd'hui. Si on fait un saut rapidement dans le temps, et par rapport à la problématique droits de l'homme et violation des droits humains, pour cet après-midi, l'esclavage en Mauritanie est quelque chose qui perdure depuis la nuit des temps et qui a toujours existé. Sauf que sous la pression internationale, déjà, et puis sous la pression de certains groupes, dès 1981, la Mauritanie déclare l'esclavage interdit. Elle abolit l'esclavage par décret. Bon. Comme si ça suffisait pas, puisque l'esclavage perdurant, en 2007, la Mauritanie promulgue une nouvelle loi qui criminalise l'esclavage et qui prévoit même un emprisonnement de 5 à 10 ans, ainsi qu'une amende de 2 500 €. Pour chaque mètre pris dans des situations esclavagistes. En 2015, sous la pression des organisations gouvernementales, dont Amnesty, en 2015, une nouvelle loi décrète que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc on pourrait se satisfaire de ces lois en se disant, bon, la Mauritanie et ses gouvernants successifs, parce que on est dans des coups d'État permanents en Mauritanie. Des militaires qui se succèdent à des militaires par coup d'État. Donc on pourrait penser ce pays protégé par cette abjection que représente l'esclavage. Ben non, on est obligé de, de dire et de toujours dénoncer l'esclavage en Mauritanie. Et le « on », et ça va m'amener à parler de alors j'aime pas trop le mot de leader anti-abolitionniste, mais en 2008, Monsieur Biram Dahabed, à Ratine, lui-même descendant d'esclaves, petit-fils, arrière-petit-fils d'esclaves, qui, longtemps auparavant, Biram a aujourd'hui, en 2019, 54 ans, a fait une promesse à son père, quand il avait une trentaine d'années, en lui disant « Je consacrerai ma vie à la lutte contre l'esclavage dans mon pays. » On est en 2019, 30 ans après cette promesse, Biram continue et perdure à lutter inlassablement contre l'esclavage dans son pays. En 2008, il crée une ONG en Mauritanie qu'il va appeler Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Alors le mot esclavage n'est pas ciblé dans le sigle IRA, mais il faut l'entendre par Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Donc il crée cette ONG. Le but principal, l'objectif principal de l'ONG est la libération d'esclaves.
Et de façon non violente.
Alors j'allais y venir et tu as raison Régis de le préciser. C'est le leitmotiv, c'est vraiment la ligne forte de Biram. Pacifisme, pacifisme, pacifisme. En 2008, donc, il crée son ONG avec des amis. Je le disais, le but est de libérer le plus d'esclaves possible. Parce que la condition d'esclave fait que quand on est esclave, même encore au XXIe siècle, on ne se rend pas compte qu'on est esclave. On est esclave depuis sa naissance et on ne connaît que ça.
Alors peut-être pour bien comprendre, la Mauritanie a donc signé, ratifié tous les textes interdisant l'esclavage en disant que c'est un crime contre l'humanité dans les textes. Mais dans les faits, la Mauritanie s'appuie sur un code interne qui fait que l'esclavage perdure et les esclavagistes ne sont pratiquement ou très rarement inquiétés.
Jamais.
Jamais même.
Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'on se protège au niveau diplomatique et au niveau international par des lois. On les multiplie, comme on l'a dit. 81, 2007, 2015. Mais le système est ainsi fait que l'esclavagisme continue. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc Biram, en créant son ONG, non seulement agit au plan local, territorial chez lui, mais il a une autre idée ou une autre fonction, c'est d'avertir la communauté internationale sur la non-application de ces lois. Biram va le payer très cher, et le paye encore très cher aujourd'hui. Parce que il prouve en libérant ses esclaves que l'esclavagisme perdure. Malgré ça, les autorités vont l'emprisonner à plusieurs reprises parce que bien évidemment il dérange. Il dérange d'autant plus que il est souvent comparé à Mandela au niveau international. Et aussi à Martin Luther King par leur pacifisme. En 2012, et c'est pas rien, l'ONU lui consacre le prix des droits humains en 2012. Donc il reçoit ce prix absolument prestigieux. Donc ça lui donne les moyens d'avertir au plan international sur ce qui se passe en Mauritanie. Pendant ce temps, lui et son épouse, Leïla, chez eux, à Nouakchott, dans, on va dire, un quartier relativement pauvre de Nouakchott. Nouakchott est une ville immense. Systématiquement, et c'est le but de l'association, ils vont donc à la recherche de maîtres esclaves, libèrent les jeunes femmes ou les enfants des chaînes de ces maîtres et les rapatrient chez eux. Donc chez eux, aujourd'hui, à Nouakchott, la maison est pleine. La maison est grande, la maison est pleine et ils accueillent et réapprennent ou essaient en tout cas de réapprendre à ces jeunes esclaves, anciens esclaves, qu'elles soient filles ou garçons, à renaître à la vie et à avoir une autre vie, encore une fois, que l'esclavage. Parce qu'encore une fois, quand on est esclave en Mauritanie, on ne connaît que ça. Avec quelquefois des déboires très tristes, inhérents à cette condition. Des enfants ou adultes ou adolescents recueillis ne supportant pas au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, la liberté. La liberté, ne connaissant, n'ayant connu que l'esclavage dans des coins reculés de Mauritanie, s'enfuient pour retrouver leur maître. Donc on est obligé aussi au niveau de Dira Mauritanie, Biram et ses amis sont obligés aussi de faire réapprendre à la vie, de faire connaître l'existence d'une autre vie. Donc le combat de Biram est permanent depuis 2008. Encore une fois, il le paye très cher puisque on atteint ce summum d'ignominie et d'imbécilité, je pèse mes mots. C'est-à-dire que on est dans un pays qui dit très ouvertement je promulgue des lois contre l'esclavage. J'interdis l'esclavage. Et quand en face les autorités mauritaniennes ont des ONG comme IRA Mauritanie, comme SOS Esclaves, qui se proposent de libérer des esclaves, au lieu de les aider, conformément à la loi, on les emprisonne. Donc y a réellement souci, quoi. Voilà, une des actions clés et phares de Biram. C'est en 2011. Lui, le Mauritanien, musulman, pratiquant, à tout le moins laïque, parce qu'il prône une laïcité nouvelle dans sa Mauritanie, va. Alors, ça va être. C'est un petit peu peut-être technique et historique à expliquer, mais il existe un code très ancien de l'esclavage, qu'ils appellent qui est dans le Coran. Qui représente un des piliers importants du Coran et qui s'appelle le code malikite. Et Biram, en 2011, en avril 2011, en place publique, lui, le croyant musulman, va brûler en place publique une partie des pages du code malikite. Il sera emprisonné 6 mois, virtuellement condamné à mort. Et au jour d'aujourd'hui, pèse encore sur lui... Un procès à venir, bon, par rapport à ça. En 2014, Biram se présente aux élections présidentielles mauritaniennes. Beaucoup de candidats. Le président Abdel Mohamed Aziz se présente. C'est un général, dictateur. Qui est arrivé donc en 2008 par coup d'État, se représente en 2014. Biram se présente en face de lui. Biram ne sera pas élu, mais fera 9% des voix. Sachant que pour voter en Mauritanie, il faut avoir une carte d'identité. Et une carte d'identité, ça s'achète. Et elle coûte aux alentours de 15 euros aujourd'hui en euros. Et bon nombre de Mauritaniennes et de Mauritaniens ne peuvent pas s'acquitter de 15 euros pour pouvoir voter.
Et notamment les Aratines, bien sûr.
Et notamment, bien sûr, le peuple Aratine, impacté par ça. Donc Biram se présente aux élections 2014. Malgré tout, il va maintenir sa position jusqu'au deuxième tour, ne sera pas élu et fera 9% des voix. Il va le payer cher, très cher, puisqu'à l'occasion d'une caravane sur l'esclavage foncier, parce qu'il y a non seulement esclavage humain, mais on esclavagise aussi la terre en supprimant... et en ne donnant pas accès la terre aux esclaves. Donc lors de cette caravane entre Nouakchott et la ville de Rosso, au sud de la Mauritanie, à la frontière du Sénégal, Biram, au moment de passer la frontière au Sénégal et rejoignant Paris, ce soir-là, nous l'attendions pour pas mal de conférences, va être pris dans un guet-apens largement organisé par les autorités mauritaniennes et sera emprisonné avec 13 de ses amis et il va passer 2 ans et demi de prison. 2 ans et demi en prison dans des conditions inimaginablement inhumaines. Voilà.
Et il sera donc soutenu par Amnesty International et d'autres associations, hein, dont l'ACAT.
Dont l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est très partie prenante, bien évidemment, avec les ONG. Donc c'est à partir de 2010 que Biram, en créant en 2008 son ONG en Mauritanie, vient à Paris, crée IRA France-Mauritanie. Et c'est là que nous le rencontrons, que j'ai l'honneur de le rencontrer à partir de 2011-2012. Ça deviendra un ami. Et en créant IRA France-Mauritanie en 2010, plutôt sur la place parisienne, parce qu'il y a une très grosse communauté mauritanienne à Paris et en banlieue parisienne. Il débute un certain nombre de relais au niveau international. Et ça n'est qu'en 2014 que l'association IRA France-Mauritanie, c'est pas gentil, mais enfin, pas gentil, végétait un peu, n'avait pas une pêche extraordinaire sur la place parisienne, que ils et on décide ensemble de rapatrier IRA France-Mauritanie dans le sud-est, parce qu'il y a un gros vivier de militants, n'est-ce pas?
Voilà, donc essentiellement avec des militants d'Amnesty et de la CAT.
Et de la CAT.
La région d'Aix qui vont se regrouper et relancer ça. Cette association.
Voilà, et en cela, on reprend les par fidélité aux objectifs de Biram, on reprend exactement les objectifs de Biram en France. C'est-à-dire dénoncer auprès des médias, auprès des autorités françaises et autres, ce qui se passe en Mauritanie, et ce, inlassablement. Et Biram va même essaimer les IRA, puisqu'aujourd'hui, on a une IRA en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Hollande.
Aux
États-Unis,
au Canada,
au Mali, au Sénégal. J'en oublie toujours. Voilà, et on se retrouve entre IRA à peu près tous les deux ans pour des actions communes.
On va peut-être faire une pause musicale. Alors Jean-Marc, tu as choisi une chanson de Billie Holiday, Strange Fruit.
Oui, je t'ai proposé une chanson très triste, Strange Fruit, fruit étrange. Alors je vous la laisse écouter en vous disant que oui, c'est pas une chanson très gaie. Elle est chantée par Billie Holiday. Elle l'a chantée à partir de 1938 aux moments les plus sombres de l'apartheid et du et de la ségrégation contre les Noirs aux États-Unis et au moment le plus haut certainement du Ku Klux Klan quoi. Donc
on l'écoute.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Non, alors Jean-Marc, peut-être tu peux nous dire quelques mots des actions de l'IRA France Mauritanie actuellement.
Oui, je voulais juste rebondir sur les mots de Billie Holiday. Dans sa musique, elle dit « Les arbres du sud ploient sous d'étranges fruits, du sang sur les feuilles et du sang aux racines, corps noirs se balançant dans la brise du sud, étranges fruits pendant aux branches des peupliers ». Voilà les fruits, voilà des fruits à becqueter pour les corbeaux, à mûrir pour la pluie, à sucer pour le vent, à pourrir au soleil, à s'abattre d'un arbre. Voilà une étrange et amère moisson. Ouais. Voilà. Ces fruits étranges, vous l'aurez compris, étant les corps des Noirs pendus par le Ku Klux Klan et autres. Voilà, triste musique.
Oui, mais hélas, qui reflète une réalité qui n'a toujours pas disparu de cette terre.
Non. Oui, les projets d'IRA France Mauritanie, comme l'ensemble des IRA en Europe, et j'allais dire dans le monde, sont tous un peu disparates, mais ils vont tous dans le même sens. Bien évidemment, c'est alerter et encore alerter sur ce qui se passe en Mauritanie auprès des pouvoirs publics. IRA France Mauritanie depuis un an. Et grâce à la volonté de quelques hommes et femmes, quelques femmes et hommes à Nouakchott, permettent aujourd'hui d'accompagner un projet jardin d'enfants à Nouakchott. Tout ça sous l'égide de, je tiens à dire son nom, d'Abou Sab, un monsieur extraordinaire, qui a pris sous son aile, dans des conditions très difficiles de logement, ce qu'on appelle un jardin d'enfants. Alors un jardin d'enfants, bon, ouais, c'est un joli nom. Ils l'ont gardé en Mauritanie sous cette appellation-là. Et aujourd'hui, le jardin d'enfants d'Abou Sab, c'est une trentaine d'enfants entre 2 et 5 ans qui vont au jardin d'enfants à peu près tous les jours. Et ces enfants noirs, fils et filles d'Aratine, sont tous des enfants de parents esclaves et majoritairement orphelins. Et Da et les amis d'Ira les accueillent tous les jours pour jouer, pour manger. Voilà, c'est ce projet-là que nous accompagnons aujourd'hui.
Oui, c'est tellement essentiel, l'éducation dans les pays. Dans les pays de dictature, on ne donne pas l'éducation qu'il faut aux jeunes, hein, aux enfants. Et donc, ça nous a semblé essentiel, cette action.
Absolument. Voilà. Voilà, et voilà, pardon, on a pu faire partir l'an dernier, à peu près à cette époque-là, 7 à 8 caisses remplies de jouets, de livres, de matériel scolaire qui sont arrivés à destination à Nouakchott. On a eu peur parce que ça a mis longtemps à arriver, mais c'est arrivé. Donc les besoins sont toujours aussi pressants, qu'il s'agisse du sol, qu'il s'agisse d'un toit. Voilà, c'est un des objectifs. Voilà, on a un projet aussi d'objectif foncier, puisqu'il y a une mise à disposition d'un grand terrain au sud de la Mauritanie, où des anciens esclaves aratines reprennent des terres. Et on va essayer de mener ce projet jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que ces hectares de terrain, avec de l'eau, puissent bénéficier à un maximum de familles.
Voilà, donc si jamais il y a des auditeurs qui voudraient aider l'association IRA France-Mauritanie, nous mettrons sur le site de Fréquence Mistral les coordonnées. Hein. C'est une association reconnue d'utilité publique. Donc on peut déduire les dons des impôts. On va peut-être parler de la journée de la soirée de demain, à 18h à la médiathèque.
Mais vas-y, c'est ton...
Donc, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors, il y a plusieurs dates au mois de mai pour célébrer cette abolition. Hein. Donc, c'est organisé par la médiathèque François Mitterrand de Digne-les-Bains, Amnesty International France, et puis les éditions Parole, qui ont édité le livre d'un membre d'Amnesty qui s'appelle Pierre Souhaité, qui a vécu en Guadeloupe et qui, justement, en vivant là-bas, et en discutant notamment avec des professeurs d'université anti-Guyane, s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient très peu connues en France, hein, notamment qu'il y avait eu une abolition de l'esclavage après la Révolution, et puis que Napoléon l'avait rétabli. Et ce n'est que donc en 1802 qu'il y a eu la deuxième abolition de l'esclavage. Voilà, donc Pierre Souhaité va demain, à partir de 18h, faire un exposé débat sur la mémoire de l'esclavage, ce crime contre l'humanité. Donc, il vous propose de venir vous informer, de débattre et d'échanger pour faire en sorte que la mémoire partagée de l'esclavage devienne partie intégrante de la mémoire nationale, connaître le passé pour mieux comprendre le présent, pour être en relation, car tout est lié, alors que l'esclavage reste une question mineure dans notre histoire. C'est pourtant un passé qui a modelé la France dans son ensemble. Et c'est aussi pour sortir des sentiers balisés, pour prendre conscience d'une réalité historique que les citoyens de notre pays sont en droit de connaître. Connaissez-vous les abolitions de l'esclavage en France, la cause de la déportation et de l'esclavage de millions d'Africains? ce drame reposant sur un autre drame, l'esclavage au siècle des Lumières, l'origine de la relation nègre-animal, le code noir et son extrême violence, et enfin l'impensable pour le rétablir. La culture du silence, du non-dit et nocive, une culture de la réflexion, de la responsabilité, est-elle possible? Tant qu'on n'aura pas accepté l'idée que la totalité monde est un rhizome dans lequel tous ont besoin de tous, il est évident qu'il y aura des cultures menacées. C'est une expression d'Edouard Glissant. Voilà, donc venez débattre avec nous demain, mardi 28 mai, à partir de 18h, un exposé débat de Pierre Souhaité, membre d'Amnesty International du groupe de Digne, sur l'esclavage, et vous pourrez en même temps admirer une exposition de photos-témoignages qui va être installée du mardi 28 mai, donc, jusqu'au 8 juin dans la salle d'exposition de la médiathèque. Et peut-être que Jean-Marc va nous expliquer, nous présenter un peu l'origine de cette exposition et puis son contenu.
Oui, alors cette exposition, ça fait partie des objectifs que nous nous sommes assignés au niveau d'IRA France Mauritanie. Pour mieux parler de l'esclavage et pour mieux le divulguer, si je puis dire, par l'intermédiaire de Biram. Biram est venu de nombreuses fois, je parle de la France, à la faculté d'Aix pour faire des conférences. Et la faculté d'Aix, la faculté de droit d'Aix, a ceci de particulier qu'elle a une antenne qui s'appelle la Clinique des droits humains, où sont admis un certain nombre par promotion de master, droits humains, master 1, master 2, master 3, au sein de la clinique des droits humains. Donc on travaille avec son directeur, M. Ludovic Henbel, que j'ai plaisir à citer parce que très partie prenante dans les actions de d'IRA en général et le parcours de Biram. Et l'idée était donc au niveau d'IRA France, vu la difficulté, parce que on l'a pas dit Régis, mais on est obligé de le dire, hein. Je disais tout à l'heure qu'il fallait parler sans embâche, on a une difficulté terrible, 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 notamment au niveau de nos, en France, pouvoirs publics et autorités, à faire passer, si je puis dire, le message, malgré toutes les invitations, Quai d'Orsay tout compris, voilà. Donc le message est compliqué dans la prise en compte réelle de ce qui se passe en Mauritanie. Petite parenthèse, Biram a encore refait 6 mois de prison de août 2018 à fin décembre 2018. Donc l'idée c'était d'aller sur place. D'envoyer le maximum de personnes sur place pour voir ce qui s'y passait. Et à l'automne 2016, en la personne de Marie Fauré et de Tiphaine Goss, respectivement juristes et journalistes, ont bien voulu partir en Mauritanie pour tendre leur micro, faire des photos, et recueillir la parole, les paroles d'anciens esclaves ou d'esclaves. Alors, mission très compliquée, extrêmement compliquée. Donc, elles sont parties de septembre, octobre, novembre, jusqu'à mi-décembre 2016. On est obligé de beaucoup cacher les conditions dans lesquelles on part et les objectifs. Donc, elles sont parties pour des reportages. Donc, tout s'est, entre guillemets, hein, pas trop mal passé au niveau de Tiphaine et de Marie Fauré pendant cette période-là, sachant que, pour assurer, elle nous envoyait tous les soirs, il y a quelque chose qui s'appelle Internet, ça, et qui est très facile, donc nous envoyer leurs vidéos, leurs photos, au cas où. Donc, on a reçu un certain nombre de photos, un certain nombre de témoignages audio, écrits, parlés, de leur part. Le tout pour alimenter la banque de données et le travail de l'équipe master au sein de la clinique des droits humains pour exploiter ces données et les mettre en concordance avec les lois anti-esclavagistes promulguées par les autorités mauritaniennes. Ça a tellement bien fonctionné, ou en tout cas la récolte a été relativement fructueuse, c'est qu'on a décidé de, et avec elle, de les refaire partir. Elles ont bien voulu l'accepter. Donc elles sont reparties à partir de 2018, à partir de février, mars, pour normalement 3-4 mois. Et patatras, bien évidemment, elles ont été dénoncées. Elles allaient de plus en plus loin dans la Mauritanie profonde recueillir un certain nombre de témoignages et faire des photos. Et elles ont donc été dénoncées et remises dans l'avion. Bon, on a eu peur pour elles, franchement. Remises dans l'avion immédiatement après la découverte de leur mission. Et il y a eu cette phrase extraordinaire de Monsieur Oulmeguet, le directeur de la police nationale, qui en les remettant dans l'avion, leur a dit l'esclavage, il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie, l'esclavage n'existe pas.
Donc voilà. Donc la preuve du contraire, c'est l'exposition qui va être visible à la médiathèque à partir de demain 18h jusqu'au 8 juin.
Oui, c'est une vingtaine de photos, hein. Oui. Les plus, parce qu'on avait un choix absolument incroyable. Donc les plus représentatives des haratines et les plus représentatives de la souffrance de ces gens à Nouakchott ou ailleurs. Oui. Oui.
Donc des en photos même temps, très émouvantes et très fortes. Des photos émouvantes, mais qui sont visibles par des jeunes aussi, par des enfants. Il n'y a pas vraiment d'agression au niveau de la photo. Et chaque photo est accompagnée du témoignage de la personne qui est prise en photo.
Absolument.
Donc il y a quelques phrases de cette personne. Et donc ça rend cette exposition très, très vivante par la force des images et puis la force des témoignages accompagnant ces photos. Voilà, donc ça sera visible à partir de demain à 18h. On fera donc le vernissage de l'exposition et le débat de Pierre Souhaité. Voilà, donc une soirée sur l'esclavage qui existe et toujours de nos jours, hein, comme on vous l'a expliqué. On va peut-être mettre encore une page musicale avec une chanson de Jean-Christophe Jeanne, Chant de marin sur les bateaux de négriers. Nous restons dans le thème.
Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un enfant, danse pour nous. J'ai dansé pour eux et ils ont ri, et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage, laisse-la tes totems, laisse-la tes sorciers, va à l'église. Je suis allé à l'église et ils ont ri, oh, ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es bon à rien, va mourir pour nous. Sur les neiges de l'Europe, pour eux j'ai versé mon sang. L'on m'a maudit, et ils ont ri. Wow, 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 wow. Ils ont ri. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds de ma lâche résignation, j'ai donné la main aux parias de l'univers et ils m'ont dit désemparé, cachons mal leur terreur. Panique, meurs, tu n'es qu'un traître, meurs, meurs. Tu n'es qu'un traître, meurs. Meurs. Tu n'es qu'un traître, meurs. Si tu ris, et j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri.
Voilà, alors nous allons maintenant partir au Brésil. Où Bolsonaro, le nouveau président, 5 mois après son élection, a prononcé un discours hostile aux droits humains qui inquiète beaucoup les membres d'Amnesty International. Et ce discours hostile commence à se traduire par des mesures concrètes. Parmi ces mesures, l'assouplissement de la législation relative à la détention au port d'armes à feu, qui risque d'accroître le nombre d'homicides au Brésil. La nouvelle politique nationale en matière de stupéfiants, qui adopte une approche plus punitive et porte atteinte au droit à la santé. Les mesures néfastes pour les droits des populations indigènes et des quilombolas. Alors les quilombolas, ce sont les descendants d'esclaves. On revient toujours à cette problématique. Les initiatives visant à intervenir indûment dans le travail des organisations de la société civile présentes au Brésil, les diverses dispositions du plan anticriminalité, notamment l'assouplissement des critères permettant d'invoquer la légitime défense pour justifier le recours à la force et aux armes à feu par la police, les mesures portant atteinte aux droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation pour les crimes de droit international commis par les autorités sous le régime militaire, la remise en cause de l'indépendance et de l'autonomie du système interaméricain des droits de la personne, l'emploi d'un discours hostile aux droits humains par de hauts responsables, dont le président lui-même, qui pourrait légitimer diverses violations des droits humains. Aujourd'hui, l'action d'Amnesty au Brésil, c'est une délégation qui va se rendre à Brasilia et tentera de remettre au président Bolsonaro et à d'autres représentants du gouvernement une lettre expliquant ses préoccupations, accompagné de recommandations pour garantir, promouvoir et protéger les droits humains dans le pays. Nous traversons une période extrêmement délicate dans les Amériques, où des gouvernements, au lieu de protéger les droits humains des personnes vivant dans leur pays, favorisent des mesures et des politiques aux conséquences dévastatrices pour ces personnes. Voilà, on va donc maintenant, toujours sur le thème de l'esclavage, écouter Hervé Tirfort, chanson sur l'esclavage.
Je ne peux les oublier quand je suis parti de la ville de Nantes. Je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne, la route du bois d'ébène. Sans pitié, on les fouette. Ouh.
un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier, la traversée n'est pas une croisière. Au fond des cales, c'est bien pire que l'enfer. La mort ici les frappe chaque jour, et les plus faibles qui passe tour à tour. Oh, 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 oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier. Américaine que j'ai laissé ces hommes nus dans leur chaîne. Depuis ce jour, la mémoire me tourmente. Dès que je suis dans cette ville de Nantes, oh, 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 c'est un grand malheur. C'est un grand malheur.
Voilà, alors vous savez que sur le site amnesty.fr, vous pouvez signer des pétitions pour les droits humains. Hein. Et il y en a une notamment qui concerne la détention et la vente des réfugiés et des migrants en Libye, hein, ce que le monde a découvert. Ça n'a pas surpris, bien sûr, les membres d'Amnesty ni les membres d'IRA France Mauritanie que des Noirs africains soient vendus encore de nos jours. Hein. Voilà, ça se passe en Libye et donc les conditions de détention de ces migrants sont extrêmement difficiles, hein, puisque ces tortures, exploitations, viols sont des horreurs quotidiennes pour bon nombre de réfugiés migrants qui sont piégés en Libye. Et l'Europe a une lourde responsabilité dans cet enfer, hein, dans la création de cet enfer, puisque elle entraîne, elle équipe les gardes-côtes libyens de bateaux pour envoyer les migrants vers la Libye. Les responsables européens participent à des souffrances épouvantables. À la fin de 2017, plus de 20 000 migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, sont détenus dans des centres de détention, sans savoir s'ils seront libérés un jour. Leurs conditions de vie sont totalement inhumaines. Ils doivent faire face à de mauvais traitements et sont même parfois vendus. Il est crucial d'appeler les responsables libyens et européens à protéger les migrants et réfugiés des violations des droits humains commises en Libye. Il est urgent que les 20 000 migrants et réfugiés aujourd'hui aux mains des milices et des groupes armés soient libérés, d'autant plus qu'il y a un conflit qui a repris en Libye et les conditions ne s'améliorent pas, au contraire. Donc il y a un appel qui est assigné, une pétition qui est assignée jusqu'au 30 juin 2019. Pour l'instant, il y a 70 000 signatures. Voilà, on espère en obtenir davantage. Alors cette pétition sera bien sûr demain à la médiathèque. Donc si vous venez à notre soirée débat, vous pourrez également signer cette pétition qui, hélas, parle aussi d'esclavage. Donc je vous rappelle, demain, à partir de 18h à la médiathèque, vous pouvez assister à l'exposé débat sur la mémoire de l'esclavage, ce crime contre l'humanité de Pierre Souhaité, hein, Pierre Souhaité qui a édité un livre aux éditions Parole qui s'appelle Le prix de la liberté, c'est sous forme de roman, et vous apprendrez un petit peu comment l'esclavage avait été rétabli par Napoléon et comment des armées qui avaient lutté pour la liberté s'étaient retrouvées embarquées à aller lutter contre des gens qui demandaient justement cette liberté, d'avoir accès à cette liberté. Donc ça a été très difficile aussi pour ces soldats qui se trouvaient confrontés à ce que... à un non-sens, puisqu'ils avaient lutté justement pour la liberté et ils devenaient contre leur gré des oppresseurs. Donc venez demain à la médiathèque à 18h, vous assisterez aussi au vernissage de l'exposition photo de Marie Fauré et Tiffaine Gloss. Très belle photo, très poignante, et ainsi que leurs commentaires, les commentaires de ces personnes esclaves ou anciennes esclaves. Voilà, donc c'est demain, mardi 28, à la médiathèque. Et nous allons terminer cette émission par Nougaro, avec sa chanson Armstrong. Et donc je vous dis à demain, venez nombreux. Au revoir à tous.
Au revoir, à demain.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie, quelle histoire. C'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge sans devenir faux qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.